Bonjour à tous. À cette visite dans laquelle nous vous proposons de connaître notre territoire depuis la mer. Territoire Elcano. Oui, Juan Sebastián Elcano sera l'un des protagonistes de la visite. Ce marin de Retaria sera le capitaine des 18 survivants de cette expédition organisée 300 ans avant par les navigateurs portugais Magellan et qui se terminera par le premier tour du monde en bateau, il y a 500 ans. En dehors de nos frontières, cet exploit est attribué à Magellan, le marin portugais qui est connu pour être le premier navigateur qui effectuait le tour du monde. Il est le héros de l'expédition, mais non, ce n'est pas Magellan, car il meurt un an et demi avant la fin du voyage aux Philippines. Et sera le marin basque de Retaria qui finira le voyage et qui réalisera cet exploit. Avant de commencer la visite, nous présenterons l'équipage. Et aussi, je vous dirai que suivant tous les protocoles de sécurité, en cas de tout type d'urgence, ces bateaux sont équipés des gilets de sauvetage et aussi à l'arrière du bateau, nous avons deux canons de sabotage autogonflables d'une capacité de 25 personnes chacun. Cette visite se déroulera en quatre étapes. Dans cette première étape, de Soumaya à Guétaria, nous raconterons la raison de ce voyage. Quel est l'objectif? Comment il est organisé? Pourquoi en 1519, 250 marins se lancent dans un voyage incertain sans bien connaître où est-ce qu'ils vont et de ces voyages seulement reviendront 18 marins. Dans la deuxième étape, de Retaria à Orio, nous concentrerons sur le voyage. Dans la première partie du voyage, nous naviguerons de Sevilla aux Moluques. Dans la troisième étape, ça sera le retour des Moluques à Sevilla. Ils ont rempli l'objectif, mais ils doivent revenir. Ils sont très loin. Ils vivront encore de grandes aventures et de grandes difficultés. Et pour finir, la quatrième étape, entre Guétaria et Soumaya, quelques petite réflexion sur tout ce qui s'est passé. Alors, nous allons faire un long voyage comme cela s'est passé il y a 500 ans. Nous commençons cette grande aventure. Pourquoi cette expédition a-t-elle été organisée il y a 500 ans? C'était une expédition commerciale dont l'objectif est les épices qui sont cultivées dans les Moluques. Elles sont un produit très demandé et très précieux en Europe. Aujourd'hui, nous savons que les Moluques sont des îles de l'Indonésie, en Asie sud-est de l'Asie. Nous connaissons les cartes du monde et nous pouvons chercher où se trouve cet endroit, peu importe l'éloignement. Mais à ce moment-là, les cartes, il était très différent. Les monts n'étaient pas très bien connus. Comment était la terre? Quelle était leur taille? Et c'était vraiment un voyage incertain. Il n'y avait pas de route connue pour y arriver. Et pourquoi les épices? Nous connaissions très bien les épices. Cannelle, clou de girofle, noix, poivre. Ce sont des produits que nous utilisons dans la gastronomie. À cette époque, l'utilisation de cette épice était très diverse. Ils pourraient être utilisés comme médicament, comme conservateur alimentaire, pour prévenir la mauvaise odeur buccale. C'était vraiment un trésor. Le clou, qui allait être l'objectif principal de ces voyages, de cette expédition, était un produit vraiment précieux. Une livre de clous de girofle équivalait à la valeur de 7 grammes d'or. Cette épice est consommée en Europe depuis longtemps. Il arriva en traversant tous les continents et ou par la mer, à travers l'océan Indien, par des commerçants arabes et italiens. Mais nous sommes dans un moment de grande instabilité, conflictuelle. Il y a des guerres et il faut chercher des itinéraires alternatifs pour que ces produits puissent arriver. C'est l'idée que Magellan soulève pour atteindre les Moluques par mer en navirant vers l'ouest, vers l'Amérique, qui, à cette époque, est déjà connue de son existence. Magellan, qui, comme nous l'avons dit précédemment, n'a fait pas ce tour du monde, car il meurt un an et demi avant la fin du voyage. Seront les 18 supervivants commandés par Juan Sebastián Elcano qui finiront le voyage. Bien sûr, nous devons considérer Magellan comme un grand navigateur. Il est le promoteur de l'expédition et aussi le découvreur de ces détroits qui relient l'Amérique du Sud au Pacifique et qu'à partir de ce moment, nous les connaîtrons comme le détroit de Magellan. Qui était Magellan? Était un navigateur portugais de Porto qui a participé à des expéditions d'exploration et de conquêtes à long de la toute de la côte africaine et en Inde, dans ses empressements en attendre l'Asie et à l'est avec la marine portugaise. Mais à un moment donné, des désaccords avec les rois portugais se sont produits et ils viennent en Castille et offrent ses services au roi castillan. Il offre la possibilité de rechercher cette nouvelle route navirant vers l'ouest. C'est une expédition qui était organisée très loin d'ici, très loin du Pays Basque où nous sommes maintenant. C'est organisé à partir de Séville, en Andalousie. Séville, à cette époque, était une grande ville de 40 000 habitants. C'est le port d'où toutes les expéditions maritimes partiront pour les colonies américaines nouvellement découvertes. Et de là partira aussi notre grande expédition. Mais bien qu'il soit organisé très loin du Pays Basque, nous verrons que dès les premiers instants, la participation basque y est très grande. Avec Juan Sebastián Elcano, on va voir qu'ils embarqueront 33 autres marins basques. Sur les 100 bateaux qui partent, 3 sont construits dans nos chantiers navals. Il y a 3 bateaux basques, un galicien et un autre bateau breton. Les armes qu'ils portent sont aussi également produites au Pays Basque. Les fers, les produits de fer aussi. Les Pays Basques, comme étaient à l'époque, les Pays Basques était une puissance navale. Toute notre vie, nous faisons autour de cette mer. Cette mer dure qui est le Cantabrique. Nous sommes un petit pays, très montagneux. Nous sommes un pays de pêcheurs, de constructeurs, de baleiniers, de marchands. Et tout ça, on pourra le voir dans cette expédition aux Espices. À cette époque, dans les chantiers navals basques, sont les plus technologiquement avancés en Europe. Nous avons de bonnes conditions, très bon bois dans nos forêts de chênes et de hêtres. Nous avons la connaissance technique de nos charpentières, de nos calafates, les fers produits dans nos forges, un fer dur de haute qualité que nous arpentons vers l'Angleterre, l'Europe du Nord, ses milieux et très demandés par différentes régions du monde. Dans cette expédition qui est organisée à Séville, 34 membres d'équipage basque participent. Mais c'était une expédition multinationale, multiculturelle. De ces 250 membres d'équipage qui partiront, il y a des sommes de 9 nationalités. Nous avons des Bretons, nous avons des Grecs, Italiens, Allemands, Flamands, Irlandais, Anglais, Andalous. C'est tout presque une tour de Babel. Dans cette tour de Babel, imaginez le nombre de langues qui ont été parlées. Bien sûr, il ne faut pas aucun doute que les Basques aussi étaient parlées. Cette langue étrange, d'origine si énigmatique, et qu'il y a même des témoignages que le jeune roi de Tidor, Homolique, a appris cette langue. Et sur les bateaux, comment le travail à bord est-il organisé? Il y a différents corps de métier. Les captains, les magans, les garçons de cabine, les pages, les charpentiers, les calfeutreurs, les charpentières et les calafates sont ceux qui ont préparé les bateaux dans les ports de Séville et seront responsables de l'entretien du bateau. Quelque chose très important si nous voulons que l'expédition atteigne ses objectifs. La responsable de l'entretien des navires sera en basque. Il y a des autres métiers. Les gardes de manger, qui doit s'assurer de qu'il n'y a pas de l'incendie, distribuer les rations alimentaires, le chirurgien, qui est chargé de maintenir plus ou moins la santé à bord, et aussi des hommes en armes pour la sécurité, ou même à brette. Ces bateaux étaient de petite taille, avec très peu d'espace pour chacun des équipages. Les bateaux Victoire, le seul navire qui termine cette expédition, on va faire la comparaison avec les bateaux où nous sommes maintenant. C'était 100 mètres plus long et 3 mètres plus large. Et dans ce petit espace, il y était environ 50 hommes, dans lesquels chacun, plus ou moins, ils sont 1,5 mètre carré. D'où ils doivent manger, travailler, dormir, vivre. Vraiment, la coexistence est très difficile à faire. Dans certains moments, il y a de grands désaccords, des disputes et même des blessés. Quand ils mangent, boire du vin. Bien sûr, l'eau est rare et en plus, elle finit par pourrir. Ils mangent des gâteaux aux biscuits de marron. C'est une sorte de pain très 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 dur, très cuit, et il faut sans levure, mais qu'il accompagne des viandes ou du poisson en conserve, du fromage, du riz. C'est les garde-manger qui doivent distribuer tout cela à l'équipage. L'hygiène n'est pas bonne, l'odeur est très forte. Dans ces bateaux, les animaux coexistent. Les animaux vivants qui ont embarqué pour pouvoir se nourrir. Et aussi d'autres animaux qui ne sont pas si désirables. Je parle des poux, des punis et des punaises de lit. La santé n'est pas bonne. Le chirurgien barbier, c'est la personne qui doit s'occuper d'eux. Mais tout ça, c'est très, 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 très difficile. Et comme ça que ces marins vivront pendant tous les voyages. Bon, peu à peu, nous approchons à Guetaria, la ville natale de Juan Sebastián Elcano. Ces marins basques qui, comme nous l'avons mentionné au début de la visite, c'est celui qui sera le capitaine de ce petit groupe de survivants des 18 personnes qui finiront le voyage à bord du bateau Victoire. Qui était Juan Sebastián Elcano? Qui savons-nous de lui? Nous savons que c'est un bon marin de Retaria, né en 1487 dans une riche famille. Son père étaient aussi marchands, almarins. Tous ces revenus proviennent de ces activités maritimes. Ils sont 8 frères, dont 5 vont se consacrer à la mer. Un d'eux sera prêtre. Et les autres 2 femmes qui vont se marier en très bon mariage aussi avec des marins. Depuis sa jeunesse, ses activités ont déjà été menées autour de la mer. Marchant dans l'Atlantique et en Méditerranée, a servi le roi pendant quelques temps au Levant, en Afrique. Il avait un bateau de 200 tonnes, beaucoup plus grand que la Victoire. À un moment donné, il a eu aussi des désaccords avec le roi. Le roi lui doit de l'argent. Il ne lui paie pas. Pour faire face à la dette, il doit vendre le bateau. Il le vend à des marchands italiens. À cette époque, il était interdit de vendre des bateaux à des étrangers. À ce moment, Juan Sebastián Elcano est hors de la loi. C'est alors lorsqu'il apparut à Sevilla à l'âge de 32 ans qu'il rencontre Magellan et qu'il s'embarque. Nos entrons à Guétaria, des 4 villages de cette région, c'est la plus petite, mais à ce moment, c'est les ports de pêche les plus grands. La pêche côtière, non loin de la côte, durable. Les espèces pêchées sont le maquereau, l'anchois et le thon. Des produits très importants pour notre économie, pour leur vente fraîche, mais aussi parce qu'ils sont les matières de nos industries conserveries.
Thank you.